Spectacle vivant. Notre invité au micro, c'est Chris Seiner. Salut Chris.
Bonsoir Léo.
Et il y a Manon aussi dans les studios.
Salut Léo.
Ça va bien?
Ça va et toi?
Mais très très bien, je suis très content parce qu'on est toujours bien entouré dans cette émission. Chris, tu es hypnotiseur ou praticien en hypnose, comment il faut dire?
Alors, moi en l'occurrence, c'est plus hypnotiseur de spectacle.
D'accord.
Mais effectivement, on a plus tendance à dire praticien en hypnose quand quelqu'un fait de l'hypnose ericksonienne et peut également faire de l'hypnose de spectacle. Je pense que tu penses à praticien en hypnose parce que j'ai effectivement été certifié praticien en hypnose.
Et c'est pour ça, voilà, il y avait des termes que je voulais, que je voulais préciser. De toute façon, on va en profiter d'avoir un hypnotiseur, un pro dans les studios pour peut-être démystifier ou clarifier le sujet de l'hypnose. Mais surtout aussi, tu viens nous parler de ton spectacle d'hypnose Dimension qui aura lieu ce week-end à Villeneuve-d'Ornon. On va décrypter tout ça ensemble, Chris, et puis avec Manon, parce qu'on a le temps dans Passage. C'est ça qui est bien, on prend le temps dans cette émission. Avant toute chose, Chris, est-ce que tu peux nous parler de ton parcours d'hypnotiseur? Qu'est-ce qui t'a donné le goût à l'hypnose et comment tu t'y es formé?
Ok, alors c'est une longue histoire, on va essayer de faire court du coup.
Prends le temps, il n'y a pas de souci, c'est mardi.
En fait, j'ai toujours été intéressé par le pouvoir, on va dire, de l'esprit humain. Et relativement jeune aussi, je me suis intéressé à ce que l'on nomme aujourd'hui le développement personnel. Et vers l'âge de mes 15 ans et demi, 16 ans, je me suis intéressé à l'auto-hypnose. C'est vraiment l'hypnose que l'on va utiliser sur soi-même pour se développer. Ça peut être pour développer une capacité que l'on souhaite acquérir. Ça peut être également pour renforcer un trait de caractère, par exemple. Ou pour un travail qui va être plus, on va dire, cognitif, par exemple. Et moi, en l'occurrence, c'était la timidité. J'étais extrêmement timide et il fallait absolument que je fasse quelque chose. Et je suis tombé sur l'auto-hypnose. J'ai très vite essayé les choses. Je me suis rendu compte que ça fonctionnait parce que, en fait, ma famille, mon entourage me disait que je changeais, que j'évoluais, que je parlais beaucoup plus facilement, j'avais moins de timidité, j'étais beaucoup plus présent. Et c'est là vraiment que je me suis rendu compte que quelque chose était en train de se produire. Et c'est par la suite que je me suis dit, mais en fait, ce que je fais sur moi, je peux potentiellement le faire sur d'autres personnes. Avant même de lire un bouquin d'ailleurs sur l'hypnose sur autrui, et j'ai commencé à mettre en application simplement ce que j'avais appris avec le bouquin d'auto-hypnose de Paul Clément Jagot, si ça intéresse les auditeurs. Et je me suis rendu compte que ça fonctionnait et que ça fonctionnait très bien. Et à partir de là, je ne pouvais plus m'arrêter. Et il s'est passé quelque chose aussi, c'est que... Alors moi, je ne crois pas au hasard. Ma mère me dit un jour, tu sais, il y a un spectacle d'un magicien, si tu veux, on va le voir. Et en fait, elle a vu un monsieur en costume noir et elle s'est dit, bah, c'est un magicien. Sauf que non, c'était pas un magicien. C'était un hypnotiseur de spectacle. Daniel Huguet, si jamais ça intéresse les auditeurs, ici, il m'écoute. Et en fait, Daniel Huguet est un hypnotiseur de la vieille époque, qui aujourd'hui d'ailleurs ne joue plus vraiment parce que forcément l'âge n'aide pas. Et en fait, j'ai découvert l'hypnose à travers son spectacle, enfin l'hypnose de spectacle, et je suis vraiment tombé amoureux de cette discipline, puisqu'en plus j'ai fini par monter sur scène, parce que forcément avec l'auto-hypnose, eh bien... j'ai augmenté ma réceptivité à l'hypnose. Et donc j'ai fini sur scène, j'ai vécu les expériences, j'ai énormément apprécié cette expérience. Et c'est à la fin, en fait, quand je me suis réveillé, c'est, on en parlera si tu veux, c'est pas vraiment le mot, mais quand je suis sorti de cette transe, c'est là que je me suis dit, mais attends, je veux faire ça. Je veux faire vivre ça aux gens. Et surtout, en plus, comme c'est un hypnotiseur de la vieille époque, il y avait vraiment cette aura de mystère, cette aura de fascination qui englobait ce spectacle. Donc il y avait tout pour me donner le virus de l'hypnose, en fait. Je ne pouvais pas ne pas l'attraper.
Quand on parle, alors on distingue voilà, l'hypnose de spectacle par rapport à l'hypnose de cabinet, ou en tout cas l'hypnose qui est utilisée dans le milieu médical, notamment en psychiatrie. Je crois qu'aujourd'hui, dans les hôpitaux psychiatriques, on a recours, et c'est assez récent, à l'hypnose. Voilà, c'est vraiment deux choses distinctes.
C'est deux choses complètement distinctes, et même, c'est même trois choses complètement distinctes. C'est-à-dire que quand tu me parles notamment d'hypnose que l'on va utiliser en psychiatrie ou même encore en hôpitaux, on va parler plutôt d'hypnose médicale. Voilà. Cette hypnose médicale, pour la pratiquer, il faut déjà faire partie du corps de la médecine. Il y a également la possibilité, depuis que je dise pas ce bête. Que je ne dise pas de bêtises, de 2013-2014, il me semble, il y a maintenant la possibilité maintenant de faire un DU d'hypnose médicale.
D'accord.
Mais ce n'était pas le cas il y a peut-être 15 ans de ça.
Ouais, c'est vraiment récent.
C'est assez récent. Par contre, quand on parle d'hypnose de cabinet, la réglementation n'est pas la même. C'est-à-dire que pour recevoir une personne et pour l'aider à se développer, par exemple, ou travailler une problématique... Effectivement, on peut faire une formation en hypnose ericksonienne. Alors, on appelle l'hypnose ericksonienne, en fait, c'est l'hypnose qui vient de Milton Erickson, qui a été modélisée, en fait, à travers ses travaux, mais ce n'est pas lui qui l'a appelée ainsi. Et cette hypnose va plus être utile pour se développer, pour travailler, par exemple, des phobies, la gestion du stress, parfois. Et aussi, ça peut être... tout ce qui va être on en parlait tout à l'heure, des troubles alimentaires, ça peut être aussi parfois... Alors attention, quand je vais dire traumatisme, c'est pas un traumatisme aussi élevé, on va dire, qu'en psychiatrie, mais parfois on peut travailler aussi sur des sortes de traumatismes, sur des choses qui ont été ancrées chez la personne et qui, en fait, en communiquant avec l'inconscient par le biais de l'hypnose, eh bien, on arrive plus ou moins, en fait, à comprendre qu'est-ce qui s'est passé chez la personne et surtout à lui faire comprendre. Il faut savoir qu'un hypnothérapeute, enfin un praticien en hypnose, lui, n'est pas du tout le maître dans l'histoire. En fait, il guide. On pourrait dire qu'il donne les clés, mais c'est à la personne d'ouvrir la porte. Et la clé, c'est pas lui non plus qui l'a trouvée dans son tiroir. Il allait la chercher chez la personne.
D'accord.
Voilà. C'est plus comme ça qu'il faut voir les choses. Après, en hypnose médicale, ça, c'est fascinant également parce qu'effectivement, on fait notamment des hypnoanesthésies aussi. Et ça, c'est absolument fascinant. Il faut savoir que l'hypnoanesthésie la plus impressionnante en hypnose qui a été réalisée il y a 4 ou 5 ans maintenant, c'était une tumeur cérébrale. Donc en fait, la personne, pendant qu'elle était en train d'être opérée, elle était sous hypnose. Et comme elle était musicienne, en fait, on l'a fait revivre son opéra. Et elle jouait de son instrument. Ça permettait deux choses. Bah, déjà, de la concentrer, de concentrer son attention sur l'opéra. Et également, en fait, lors des interventions des chirurgiens, eh bien, de vérifier en fait, qu'il n'y ait pas de problème neuromoteur même. Et donc, du coup, c'est un avantage considérable par rapport à l'anesthésie chimique, où là, bah, finalement, eh bien, si on fait une erreur, on fait une erreur.
Non, c'est un sujet fascinant, il y a énormément de choses à dire, on pourrait faire une émission, d'ailleurs il faudra,
sur l'hypnose
médicale, mais on va rester sur l'hypnose spectaculaire.
Ce ne sera pas moi qui va faire l'émission d'hypnose médicale.
Mais voilà, c'était bien aussi de distinguer parce qu'il y a souvent l'image qu'on a de l'hypnose, c'est cet aspect spectaculaire, sensationnel de l'hypnose du spectacle ou de ce qu'on a vu par exemple dans Tintin, hein, où il y a juste quelqu'un qui agite un pendule, en deux secondes la personne est hypnotisée. Non, c'est pas ça, mais on rejoint quand même l'hypnose spectaculaire. Alors, je voulais te demander, Chris, t'as dit, voilà, ta mère avait confondu avec un magicien. Mais est-ce que ça emprunte des codes d'un spectacle de magie avec des costumes bariolés, une assistante sexy, une mise en scène très spectaculaire? Parce que quand on voit des affiches, rien que des affiches de spectacles d'hypnose, on peut confondre avec un spectacle de magie, mais c'est pas la même chose.
Ce n'est pas la même chose. Après, on va dire que historiquement, l'hypnose de spectacle est entre guillemets, une branche de la magie. Alors, c'est pas tout à fait comme ça qu'on voit les choses en France, mais c'est plus valable dans les pays anglo-saxons. Par contre, par rapport à ce que tu disais sur l'assistante, non, au contraire. En fait, nous, il faut qu'on capte l'attention sur nous. Et si on a effectivement une assistante qui est là, qui nous récupère l'attention, bah, le spectacle, il fonctionnera pas.
Ouais, c'est deux fonctionnements différents. L'assistante, elle est là pour distraire le public pendant
voilà,
que le magicien
fait
son tour.
Voilà, bon, je voulais pas forcément dire ça. Bon, après... voilà. Oui, c'est une des méthodes que les magiciens vont utiliser pour pratiquer certaines méthodes de détournement d'attention, effectivement.
Parce que donc toi, tu fais un spectacle qui s'appelle Dimension, un voyage hypno-galactique, mais y a quand même je croyais qu'il y avait une assistante qui s'appelle Stella, mais elle est virtuelle.
Elle est virtuelle, ouais. Bah, disons que... Alors, cette idée date d'avant, ce qui se passe en ce moment, mais avec l'ère maintenant des intelligences artificielles qui est vraiment en plein essor, J'ai été un peu plus loin que ce que j'avais prévu au départ. Au départ, je voulais simplement en fait que le spectacle soit introduit par une voix qui annonce le spectacle et qui soit une voix un peu robotique. Et puis, j'ai commencé à développer un peu plus, mais même avant l'arrivée de ce fameux GPT-3 dont tout le monde parle, j'avais commencé déjà à imaginer vraiment des interactions. Et donc maintenant, bah voilà, dans le spectacle, effectivement, je ne vais pas trop en dire, mais il y a effectivement une assistante virtuelle qui à la fois est l'assistante virtuelle du vaisseau Dimension, puisque le spectacle se passe dans le vaisseau Dimension. Et également, c'est aussi, on va dire, la copilote, c'est-à-dire qu'elle gère pas mal de choses. Et aussi, elle a une sorte d'interaction avec les hypnotisés, mais ça, j'en dis pas plus.
D'accord. Ouais, c'est une assistante, mais voilà, elle capte pas elle t'assiste vraiment, elle capte pas l'attention
Ah non,
pour pas
non, 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 non,
détourner.
au contraire, elle me soutient. Voilà.
Donc dans Dimension, on est dans un. En fait, tu invites le public, les spectateurs, à venir dans un vaisseau qui s'appelle Dimension, et tu les fais voyager à travers l'espace et le temps. Est-ce que tu peux nous parler de l'histoire, de l'ambiance, de la mise en scène, de ce qui attend le public, on le rappelle, les 24, 25 et 26 février, donc ce week-end?
Alors, bah en fait, la genèse de ce spectacle, à la base, disons que l'écriture a commencé pendant le confinement. Ah, bon, on va encore en parler.
Forcément, hein, c'était il n'y a pas si longtemps.
Mais il y a beaucoup d'artistes hein, qui ont énormément écrit pendant le confinement et également se sont inspirés en fait de l'événement, en fait, de tout ce que ça a provoqué, de toutes les répercussions sociales, d'isolement. Et moi, ça m'a beaucoup touché. Bah, déjà, en tant qu'artiste, le travail s'est arrêté net. Et il faut le dire, hein, quand on est artiste, on vit un peu avec notre travail. Donc, bah, quand le travail
Eh oui,
s'arrête,
forcément, complètement. Ouais.
ça met vraiment un coup. Et donc, j'ai commencé à écrire et à me dire, mais il faut que je fasse voyager les gens. Alors, au départ, je suis parti sur l'idée de faire voyager les gens autour du monde, un peu à l'image du tour du monde en 80 jours, par exemple. L'idée, c'était un peu ça. Je voulais me baser sur ça. Et en fait, plus le temps avançait, et plus je me disais, mais en fait, les gens, potentiellement, ils ont déjà voyagé au Maroc, par exemple. Potentiellement, les gens sont déjà allés au Japon. Peut-être qu'ils sont déjà allés en Chine, par exemple. Donc, je me suis dit, il faut aller plus loin. Il faut aller beaucoup plus loin. Donc, au départ, je suis parti sur l'espace. Et c'est là que je me suis dit, mais l'espace, ça ouvre un champ des possibles considérable. Selon certaines théories, en tout cas. Et donc, eh bien, ça permet le voyage dans le temps. Et là, bah, il n'y a plus de limite. Et à partir de là, bah, là le cerveau a fusé.
Et donc tu as eu plein d'idées, ok. Mais l'idée, voilà, c'est de faire
C'était.
voyager avec l'imaginaire le public dans l'espace et le temps. C'est ça? Donc tu vas vraiment hypnotiser une salle entière?
Alors, la salle entière, disons que au départ, au niveau au début du spectacle, il y a effectivement ce que l'on va appeler des tests. Ces tests vont permettre de tester effectivement toutes les personnes qui sont présentes dans la salle. Cela dit, c'est pas parce que j'ai 70 personnes dans la salle que les 70 personnes vont finir sur scène. C'est pas gérable pour moi tout seul, on s'en doute
Bien
bien.
sûr.
Non, l'idée c'est d'avoir 10, 15 personnes sur scène et les autres personnes qui vont rester donc dans le public. Même si elles ne vont pas, et c'est ça l'avantage de ce spectacle, c'est que je l'ai réfléchi de cette façon-là, même si elles ne vont pas monter sur scène, eh bien, elles vont vivre des choses quand même. Parce que j'ai travaillé le spectacle pour qu'il soit vraiment immersif et que le voyage, en fait, se déroule à la fois pour les hypnotiser et aussi pour le public. Voilà. Et il y a aussi une petite surprise à la toute fin du spectacle pour le public, mais ça.
Et on va pas la révéler, on va pas spoiler
Non.
le spectacle
Non,
non
non.
plus. Mais justement, donc voilà, tu vas prendre une quinzaine, bon, à la louche, une quinzaine de personnes sur scène, idéalement, que tu vas hypnotiser. Le reste sera en public, en spectateur. Comment ça va s'articuler justement ce voyage pour ceux qui sont pas hypnotisés? Ils vont juste voir des gens qui sont hypnotisés ou...
Non.
Alors vas-y, tu peux nous en dire un peu plus
Je
là-dessus
peux,
ou pas?
d'autant
Sans
que
trop
j'ai
en révéler,
commencé
hein.
à faire de la promo à ce sujet parce que ça, je l'ai vraiment gardé jusqu'à la toute fin. Mais comme je l'ai dit, en fait, il va être très immersif. C'est-à-dire que effectivement, il va y avoir les hypnotisés qui vont voyager et qui vont vivre des aventures lors de chaque voyage, qui ne sont pas que des voyages. D'ailleurs, il y a aussi des missions. Voilà, petit spoil.
Il y a de l'aventure, hein, dans ce
Il y a
spectacle.
beaucoup d'aventures. C'est une histoire, en fait. J'y reviens après si tu veux, je vais d'abord répondre à ta
Bien sûr, bien
question.
sûr.
En fait, l'idée est que lorsque le spectacle va commencer, dès le départ, le public soit immergé dans le vaisseau dimension, même au moment de l'introduction. Et là, en fait, ce qui va faire que les personnes vont vraiment se sentir de suite immergées, c'est qu'on a également, en fait, tout le spectacle va être retransmis, on va dire, enfin, pas le spectacle, pardon, les aventures ainsi que les univers vont être retransmis par le biais d'un écran. Donc, toutes les personnes qui vont rester dans le public, eh bien, vont plus ou moins assister aussi à une sorte de film sur le spectacle, avec, sur scène, les hypnotisés. Voilà. Donc, je vous laisse imaginer.
D'accord, ouais, c'est assez ce intriguant, parce que je me demande ce que c'est.
Aussi des jeux de lumière qui vraiment créent une interaction aussi avec le public, puisque on a des lumières aussi dans le public en fait qui vont réagir sur certains événements du spectacle, on va dire. Voilà.
D'accord, bah c'est bien intriguant. Qu'est-ce que t'en penses, Manon ?
Ah oui, c'est totalement intriguant. Moi, j'avais une question aussi. Ça fait un peu peur en fait, l'hypnose, quand on ne sait pas ce que c'est, quand on ne l'a pas encore vécu. Alors, en quoi ça va consister pour les personnes hypnotisées ? Est-ce qu'elles vont être un peu conscientes de ce qui leur est arrivé ? Est-ce qu'elles vont oublier ce passage de leur vie ? Qu'est-ce qui se passe exactement ? Comment on en ressort d'une hypnose ? Est-ce qu'on se sent bien ? Est-ce que se sent différent ?
C'est vrai, ça, c'est dommage si tu payes ton billet mais que tu te souviens plus du spectacle.
En fait, pour répondre à ta première question, pour les gens qui ont peur de l'hypnose, tout d'abord, nous, on connaît ces peurs. On les connaît et en fait, on sait pourquoi elles existent. Et dans le spectacle, on va de suite apaiser les choses. En fait, en expliquant qu'est-ce que l'hypnose, comment ça fonctionne et qu'est-ce qui se passe en fait dans le cerveau d'une personne lorsqu'elle est sous hypnose. Et notamment cette idée de perte de contrôle. En fait, lorsque l'on est sous hypnose, on est un peu dans un entre-deux. Par exemple, la personne va savoir qu'elle est toujours au théâtre, mais elle va aussi s'imaginer, par exemple, qu'elle est à la montagne, et elle va être certaine d'être à la montagne. Et une fois qu'elle va être réveillée, elle va te dire, en fait, je savais que j'étais toujours là, mais j'étais à la montagne, je sentais la neige sous mes pieds, voilà. Et ensuite, en réalité, contrairement à ce que l'on pense, déjà l'hypnose n'est pas du sommeil, donc c'est un état modifié de la conscience. Donc lorsque tu es sous hypnose, au bout d'un moment, si quelque chose qui t'est suggéré ne te convient pas, ne convient pas à ta morale, eh bien tu vas sortir de cette transe. Voilà. Et l'hypnotiseur, si effectivement il est éthique, eh bien il va accepter cette sortie de transe. Et donc il va dire à la personne, écoutez, vous revenez dans le public. Après, c'est des choses qui arrivent lorsque vraiment, effectivement, les suggestions qu'on va utiliser sont des suggestions qui ne sont pas agréables pour la personne. Là, la façon dont j'ai construit le spectacle, c'est vraiment des aventures que, finalement, on aimerait tous vivre. Je veux dire, partir dans l'espace, voyager dans le temps. C'est vraiment des choses très agréables et qui, finalement, vont plus donner envie à la personne d'aller encore plus loin dans la transe plutôt que de se réveiller. Tu vois, donc tu as des gens qui effectivement parfois vont sortir de transe et puis on va dire écoutez, pas de problème, vous revenez dans le public. Et pour répondre à ta dernière question, en fait c'est aussi pourquoi les gens ont peur de l'hypnose, c'est qu'il y a des idées reçues qui circulent, notamment le fait que voilà, on peut faire n'importe quoi à une personne. C'est ce que je te disais, tu peux pas aller contre la morale d'une personne. Par exemple, si je donne à une personne sur scène un couteau, par exemple, on va aller dans l'extrême, hein, et que je lui dis, maintenant, vous avez un couteau, alors c'est un faux couteau, hein, mais je lui dis dans sa tête que c'est un vrai couteau, vous allez maintenant prendre ce couteau et agresser quelqu'un. Elle va de suite se réveiller. Elle va jamais accepter ça. De suite, elle va dire, mais non, c'est pas moi, je ne suis pas un tueur, je n'ai pas envie de tuer quelqu'un. Évidemment, je ne ferai jamais ça.
C'est hardcore.
Mais mais là, c'est pour montrer vraiment l'exemple le plus extrême. Donc voilà, tu ne peux pas aller contre la morale de la personne. Voilà. Et mon rôle est en fait de amener en confiance les personnes pour vivre ces aventures. Et jusqu'ici, ça se passe très bien. Donc là, avec le spectacle qui arrive, je pense pas qu'il y aura ce genre de problème.
Peut-être qu'une des peurs aussi dont faisait référence Manon, c'est la peur de se faire hypnotiser à notre insu ou alors qu'on n'est pas consentant. Ça, donc du coup, c'est pas possible.
Non, en fait, on est tous réceptifs à l'hypnose. contrairement à ce que l'on pense. C'est d'ailleurs pour ça qu'on va plutôt... Enfin, moi, c'est ce que je vais plutôt dire. Je vais plutôt dire, est-ce que vous êtes suffisamment réceptif ? Suffisamment réceptif pour rentrer dans un niveau de transe suffisant pour pouvoir vivre les aventures que je vais vous proposer. Mais en réalité, on est tous réceptifs à l'hypnose parce que c'est un état qu'on a naturellement en nous et que l'on traverse plusieurs fois par jour. Tu vois, si par exemple, tu es dans ta voiture ou... Non, on va prendre un autre exemple. Par exemple, tu regardes un film et tu es tellement absorbé dans le film que tu vas oublier ce qui se passe autour de toi. On va même te parler ou ce genre de choses et puis tu vas dire « Ah pardon, je t'avais pas entendu, tu l'as pas fait exprès. » Ton cerveau, en fait, c'était déconnecté de l'environnement extérieur et c'était focalisé, avait focalisé son attention sur le film. Et en fait, ton conscient a dit « Bon, bah moi je m'en vais. » Et c'est l'inconscient qui est arrivé. Et l'inconscient, lui, était heureux. Il vivait des aventures. Il va pas s'en plaindre. Et donc, du coup... En fait, tu ne peux pas, tu ne peux pas ne pas être réceptif à l'hypnose. Cependant, certaines personnes vont être moins réceptives, donc ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas également, qu'elles ne pourront jamais vivre les expériences ou les aventures que je vais leur proposer, mais que peut-être il faudrait plus de temps ou que ça peut se produire un autre jour. Ça évolue avec le temps, en fait, l'hypnose. On a des personnes qui parfois, moi ça m'arrive parfois, un été j'ai une personne qui n'est pas du tout réceptive. Parce que je fais aussi les tournées d'été et je retombe parfois sur des personnes que j'ai déjà croisées avant et qui finissent par monter sur scène. Mais il y a 3-4 ans de ça, elles n'étaient pas montées sur scène. Mais c'est aussi le fait d'avoir vu un spectacle aussi, il y a tout ça. Voilà.
C'est intéressant cette idée de le fait qu'on est tous réceptifs parce que moi il me semblait qu'il y avait vraiment ceux qui croyaient en l'hypnose et ceux qui n'y croyaient pas, qui se disent hermétiques, qui sont pragmatiques, cartésiens, qui pensent que c'est du charlatanisme. Moi je pensais que ces personnes-là, l'hypnose pour eux ça marchera jamais, mais en fait si c'est possible.
Alors pour te dire, très souvent à la fin de mes spectacles ce sont des sceptiques.
D'accord.
Et ils viennent me voir et ils me disent « Bon, faut que je vous dise la vérité, moi je croyais pas du tout à votre affaire au départ. » Et finalement, waouh, c'est impressionnant ce que vous m'avez fait vivre. Et ils reviennent et ils sont super contents. Et vraiment, on a des surprises. En fait, les personnes très souvent qui sont les plus cartésiennes ou en tout cas les plus réticentes à l'hypnose, c'est parce qu'elles ont tellement d'idées reçues qu'elles se sont construites des croyances. Et en fait, une fois que le spectacle commence et qu'elles sentent que tout va bien se passer, elles lâchent prise. Et il suffit juste de lâcher prise, de s'autoriser à jouer le jeu. Alors quand je dis jouer le jeu, c'est pas faire semblant. C'est il faut voir l'hypnose comme un jeu, en fait. Donc quand je propose une expérience, en fait, je propose un jeu d'imagination. Et si tu te laisses prendre au jeu, eh bien là, il peut y avoir des surprises. Voilà.
Et ce qui tombe bien avec ton spectacle, c'est que c'est une ambiance qui est très agréable. C'est très bienveillant, il y a de l'humour aussi.
Oui. En fait... toutes les aventures sont à la fois des aventures qui sont des choses extraordinaires qu'on a tous envie de vivre au fond, mais bien sûr il y a une part d'humour. Alors quand je dis une part d'humour, je profite que tu me lances là-dessus. Alors le but n'est pas de se moquer des personnes qui vont être sur scène, pas du tout. L'idée c'est même qu'elles-mêmes elles en rient en fait, et que le public en rit, mais dans le sens où c'est les événements qui vont faire que le public va en rire. C'est pas parce qu'elles vont faire des choses complètement ahurissantes que le public va rire. C'est vraiment tout un ensemble. Et puis, il y a aussi dans l'écriture, on va dire qu'il y a aussi des dialogues aussi un peu humoristiques. Voilà.
Il y a plein de techniques qui rentrent en compte aussi pour pratiquer l'hypnose. Il y a le mouvement, il y a la parole, il y a les images, il y a les lumières. C'est un petit peu tout ce que tu nous as dit dans ton spectacle. Quand tu installes l'ambiance pour qu'on comprenne bien. Enfin, avec l'immersion, on se croit dans un vaisseau. Du coup, ça relève de quoi tout ça en fait, l'hypnose, ça relève de quel domaine? C'est quoi? C'est quand c'est la parole, ça relève de la sémiologie ou alors c'est du psychique, de la psychiatrie? C'est comment on peut mettre un mot là-dessus, s'il faut en mettre un?
Alors si on devait mettre un mot sur absolument tout ce que tu viens d'indiquer, en fait, ce serait la suggestion. Parce que la suggestion, l'avantage, c'est qu'elle peut passer par la parole, mais on peut aussi suggestionner par la lumière. La lumière va emmener déjà un état de transe, c'est-à-dire qu'il y a une ambiance qui est très tamisée, qui fait que dès le départ, on se dit « Ouh, il va se passer quelque chose ». L'affiche aussi, tu parlais de l'affiche tout à l'heure par rapport à la magie, tout est réfléchi aussi pour que dans l'affiche on crée déjà en fait une interrogation, une intrigue, et que la personne, en fait, commence déjà à se dire « mais il se passe quelque chose, il va se passer quelque chose d'étrange dans ce spectacle ». Et en fait, oui, effectivement, pour la majorité des fois, on va dire que c'est plus la voix qui va faire l'hypnose. Mais en réalité, il y a tout ce qui va être autour qui va créer la suggestion dans son ensemble. Les gestes, oui, bien sûr, sont très importants. Le regard est très important. Alors, c'est un peu moins vrai aujourd'hui. On parlait de l'ancienne hypnose au départ avec Daniel Huguet. À cette époque-là, on utilisait beaucoup le regard pour hypnotiser. Mais ça s'est perdu avec le temps parce que ça fait beaucoup penser à l'hypnotiseur Sven Gali, voilà, un peu vampirique. Et donc, du coup, on s'en est éloigné parce que bah, forcément, ça alimente les peurs. Mais en réalité, moi, je l'utilise toujours parce que le regard est essentiel en hypnose. Voilà.
Donc de la suggestion, mais est-ce que ça rentre aussi dans de la manipulation ?
Non, puisque les personnes, en fait, sont prévenues de ce qui va se passer. C'est-à-dire que je leur dis dès le départ que, voilà, elles vont vivre des aventures, elles vont passer par plusieurs états. Je leur explique ce que je vous ai dit, c'est-à-dire que il y a toujours cette notion finalement de conscience finalement qu'on est toujours dans le théâtre mais qu'on va être aussi dans le vaisseau. Il y a aussi toute cette notion de morale, d'éthique et de bienveillance. Donc du coup, moi je pars du principe qu'à partir du moment où je leur propose le jeu d'imagination, pour reprendre ce terme-là, et qu'elles le font, elles ne sont pas manipulées puisque si elles ont commencé à le faire, c'est qu'elles étaient d'accord et qu'elles se sont dit bah, « allez go, on y va ». Donc je le vois pas comme une forme de manipulation.
Après c'est pas forcément quelque chose de négatif une
non,
manipulation.
Non, tout à fait, la manipulation n'est pas forcément péjorative, c'est vrai. Mais par contre, en l'occurrence, tu peux parfois utiliser des techniques d'hypnose dans un cadre qui vont être un peu plus manipulatoires. Ça, c'est des choses qui vont se faire plutôt dans la communication, dans la publicité, voilà. Mais dans le cadre d'un hypnose, d'un spectacle d'hypnose, non. Après, au final, est-ce qu'une personne qui va voir un spectacle, par exemple, de magie ou bien de danse, à la fin, est manipulée ? Grande question.
Ouais, non, c'est super large. Hein,
d'une certaine façon, on pourrait le penser.
Pour nos étudiants qui nous écoutent et qui sont en sciences de l'information et de la communication, c'est une grande question et je n'ai pas arrêté de me la poser depuis que j'ai fini mes études. Donc, Manon, est-ce que tu avais une question ?
Oui, j'ai une question qui est peut-être un peu étrange, mais est-ce que l'hypnose pourrait fonctionner sur des animaux ?
Totalement.
Ah oui ?
Oui. Alors ça se fait moins aujourd'hui, mais il y avait une époque où on hypnotisait beaucoup les animaux sur les plateaux télé, parce que c'est très spectaculaire. Mais là, c'est plus pour le côté spectacle. Après, en hypnose, en fait, il faut savoir que l'hypnose animale n'est pas du tout la même que l'hypnose qu'on va utiliser chez un humain, puisque bah, on n'a pas de dialogue avec l'animal. Bon, à part si vous êtes sous hypnose et que vous parlez, par exemple, le chien, bon, c'est pas moi qui fais ça, hein, je vous rassure. Et donc non, en fait on va plus utiliser un ton de voix qui va calmer, qui va apaiser l'animal et qui va aussi vraiment créer un état de détente. On peut également utiliser le regard qui va saturer en fait le champ visuel de l'animal et qui va potentiellement créer un état cataleptique. C'était ça surtout qui a été fait d'ailleurs dans les plateaux télé où en fait on regardait intensément l'animal dans les yeux et en regardant l'animal dans les yeux en fait il était en saturation totale, une saturation visuelle et du coup eh bien, il se mettait en état cataleptique comme ça, net. Voilà. Il suffisait de taper dans les mains et hop, il reprenait son état naturel. Voilà.
Et c'est quelque chose que tu as déjà essayé ou ça t'intéresse pas ?
J'ai expérimenté ça il y a très longtemps. Mais c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Bon, après, j'ai déjà hypnotisé un chat pour l'apaiser, mais ça, c'était pas tout à fait voulu.
Chris Seiner, on rappelle ton spectacle Dimension, le voyage hypno-galactique. C'est le 24, 25 et 26 février, donc ce vendredi, samedi et dimanche. C'est à Villeneuve-d'Ornon, mais où exactement à Villeneuve ?
Alors, c'est à la salle des Trois Coups. C'est cette allée du commandant Moss, c'est au collège Pont de la Maille. Enfin, c'est à côté du Collège Pont de la Maille, ce n'est pas dans le Collège Pont de la Maille. Et en fait, c'est une association qui, à la base, on va dire, est une... Alors, c'est une association qui date de 2000, qui a cette salle, et qui fait à la base des représentations amateurs de théâtre. Et qui, parfois, organise des événements. Et en fait, moi, pour la petite histoire, c'est que j'ai créé mon tout premier spectacle, Hypnotisme, là-bas. Donc j'étais en résidence et j'ai fait un mois là-bas de résidence et je l'ai lancé là-bas. Et là, pour le coup, j'ai pas pu faire de résidence parce que j'ai commencé à écrire ce spectacle pendant le confinement et c'était compliqué. Mais ça me tenait à cœur de lancer ce spectacle là-bas. Voilà, parce que ça me fait plaisir.
Retour aux sources.
Retour aux sources et ouais, ça me fait plaisir. L'équipe est vraiment sympa et c'est vraiment des gens intéressants.
C'est un spectacle qui dure combien de temps ?
1h30 à peu près. À peu près. L'idée est, on va dire, d'aller maximum à 1h35 à peu près. C'est un peu plus long que le format classique 1h15 parce que il y a vraiment une immersion totale et il y a une histoire. C'est-à-dire que j'ai vraiment écrit une histoire. Il n'y a rien qui se produit au hasard. Tout a une finalité et une logique. Voilà. Même dans l'espace.
Et à combien est la place de ce spectacle ?
Alors, l'entrée pour le vendredi et le samedi est à 10 euros. C'est gratuit pour les mineurs. Ça, c'est un choix de l'association. Ils font pour tous leurs spectacles. Et le dimanche, c'est 5 euros et c'est également gratuit pour les mineurs.
D'accord, super. Est-ce qu'on peut rappeler l'heure aussi de ce spectacle ?
Tout à fait, c'est 21h. Les ouvertures des portes, c'est 20h30. Oui, c'est ça. Et le spectacle est à 21h.
Très bien. Donc, chers auditeurs, j'espère que vous avez bien noté ça dans vos agendas. Et on peut dire que ça s'adresse à tout le monde.
Ça s'adresse à tout le monde. Alors, sur scène, je ne prends que des personnes majeures ou, on va dire, à partir de 16 ans, avec autorisation parentale, si les parents sont présents dans la salle. Après, sinon, ça s'adresse à tout le monde, bien sûr. C'est très familial. Voilà, il se passe des choses très sympas.
Aux curieux comme aux sceptiques.
Oui, voilà. Complètement. Surtout les sceptiques peuvent être étonnés.
Est-ce que tu as d'autres actualités ou des projets à communiquer sur nos ondes ?
Complètement. C'est intéressant ce que tu me dis là. J'ai plusieurs projets. Je vais lancer normalement... on va dire cet été, un documentaire sur l'hypnose sur ma chaîne YouTube, que j'ai arrêté pendant un temps, mais je vais la reprendre. Et aussi, avec ma partenaire Claire Poisson, qui est bien connue ici.
Elle est venue plusieurs fois.
Dans les studios de Radio Campus. Eh bien, on a une visite occulte de Bordeaux, où on fait en fait découvrir la face occulte de Bordeaux. Donc tout ce qui va être... ésotérisme, paranormal, étrange. Et on a aussi rajouté à la fin des expériences d'hypnose, justement pour faire découvrir cet état.
Alors justement, ça c'est un point, c'est ce qui m'a toujours fait tiquer sur l'hypnose et ce qui a fait que pour beaucoup de personnes il y a des doutes, c'est que c'est toujours relié à une dimension occulte, mais en fait le fait que maintenant c'est utilisé dans le milieu médical, ça va à l'encontre de ça, donc en fait finalement la dimension occulte avec l'hypnose, c'est quoi ? C'est un décor, c'est une thématique, c'est un peu comme, tu vois, tout ce qui est Satan, satanique avec le métal. C'est juste quelque chose avec lequel on s'amuse, mais qui est pas sérieux.
En fait, on pourrait dire qu'il y a plusieurs écoles en hypnose. Il y a des gens qui vont penser que l'hypnose s'apprend entièrement et que c'est pas du tout un don ou une capacité. Et il y en a qui vont penser que c'est à la base un don ou une capacité et que, eh bien, on peut ensuite l'alimenter de connaissances, d'expériences, de pratiques. Je suis plus de cette deuxième école. Alors, je ne pense pas au don, je pense plus à la capacité. Disons qu'il faut avoir une certaine fibre, selon moi. Et pour revenir à ta question, effectivement, c'est quand même... ça s'est perdu avec les années. C'est-à-dire qu'à l'époque, on va dire des années 60, 70, même 80... l'hypnose était effectivement très vue comme quelque chose d'étrange, de paranormal, parce qu'on n'avait pas autant de connaissances telles qu'on en a aujourd'hui, et donc les gens pensaient assez facilement que c'était effectivement du paranormal. Après, il y a des domaines d'hypnose qui sont un peu plus étranges, comme l'hypnose spirituelle, ce genre de domaine-là, mais l'hypnose de spectacle, effectivement, ce sont des techniques, même si je pense qu'il faut avoir une certaine capacité, effectivement. Après là, en l'occurrence pour la visite occulte, c'est simplement en fait parce que dans la visite que l'on fait, eh bien il y a un rapport avec l'hypnose, et donc du coup c'est assez cohérent de rajouter cette petite expérience, on va dire, de découverte de cet état. Voilà.
Très bien. Donc, ouais, tu nous as parlé de ton projet. Cet été, il y aura un documentaire sur l'hypnose sur ta chaîne YouTube.
Sur l'histoire de l'hypnose.
Sur l'histoire de l'hypnose, pardon. Donc, ouais, tu as une chaîne YouTube. C'est, j'imagine qu'on tape Chris Sainer. S-E-Y-N-E-R.
C'est ça.
Et est-ce qu'on peut te suivre aussi sur les réseaux pour des actualités, des informations, pour te contacter ?
Bien sûr. Donc, je suis sur Facebook. C'est la même chose, Chris Sainer. Sur ma page Facebook. Sur Instagram, c'est chris.sainer. Et TikTok, je crois que c'est Chris.Sainer ou c'est Chris Sainer, j'ai un doute.
Très bien, bon, en tout cas, on pourra te retrouver facilement. Manon, est-ce que tu as d'autres questions pour notre invité ?
Une question peut-être naïve ou maladroite, mais est-ce que le mentalisme, ça se rapproche un peu de l'hypnose ou est-ce qu'on est dans un truc totalement différent ?
Alors.
Grande question, peut-être.
Non, pas grande question. En fait. Pour te répondre, un mentaliste digne de ce nom est censé faire de l'hypnose. Par contre, un hypnotiseur n'est pas censé faire du mentalisme. Tu vois ? En gros, c'est une branche du mentalisme, l'hypnose également. Et un mentaliste travaille aussi avec la suggestion, avec l'influence. Et de ce fait, bah, il est forcément formé à l'hypnose. Après, tu peux faire des spectacles d'hypnose et de mentalisme. C'est d'ailleurs, ça a été le cas de mon premier spectacle Hypnotisme. C'est pour ça qu'il s'appelait Hypnotisme. Le H pour hypnose et le M qui était en majuscule pour mentalisme. Et ensuite, j'ai vraiment décidé de complètement me concentrer à l'hypnose parce que l'hypnose, en fait, on oublie souvent que c'est aussi un art du spectacle. Et en fait, j'aimerais vraiment donner cette dimension artistique à l'hypnose. Et ça, je ne peux pas me le permettre si je rajoute du mentalisme à côté. En tout cas, dans la façon dont je veux transmettre les choses. Tu comprends ce que je veux dire ?
Oui.
Mais en tout cas, bien sûr, un mentaliste peut faire de l'hypnose. Par contre, c'est pas la même chose. C'est-à-dire que le mentalisme va être un ensemble de techniques, dont l'hypnose, qui va permettre au mentaliste de, par exemple, découvrir une information sur toi, ou une information que tu vas penser, ou va t'influencer à penser une information. Voilà. Mais il y a un ensemble de techniques là pour le coup et c'est très vaste.
C'est très très vaste, il y a encore beaucoup de choses à dire sur l'hypnose ou en tout cas à révéler, à découvrir et à démystifier. Chris Sainer, merci beaucoup d'être venu à Radio Campus.
Merci à toi Léo.
On rappelle aux auditeurs et puis merci Manon évidemment pour d'avoir co-animé cette interview, c'est toujours un plaisir. Chris Sainer, tu es donc sur scène ce week-end, on le rappelle, pour le spectacle d'hypnose Dimension, un voyage hypno-galactique à Villeneuve-d'Ornon, donc les 24, 25 et 26 février. On te souhaite de belles représentations et puis bah, de beaux voyages intergalactiques.
Super, merci.